Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous. Trois semaines après sa très controversée réélection, le président bolivien Evo Morales n'a eu d'autre choix que de convoquer de nouvelles élections, correspondance de la Paz d'Alice Campagnol. Nous serons également en direct de Barcelone avec Isabelle Labéry qui a pu constater la lassitude des électeurs espagnols appelés à renouveler le Parlement, quatrième législative en quatre ans. Enfin, nous serons à l'écoute de participants à la marche contre l'islamophobie à Paris et en ligne avec le professeur des universités Vincent Tibéri. Evo Morales est allé devant le Parlement pour y prendre l'engagement de renouveler le tribunal électoral suprême et d'appeler les partis à aider à cette mue afin de laver de tout soupçon cette instance qui a été à ce point décriée que ses agissements ont fait office d'étincelle, étincelle post-électorale. C'était le 20 octobre dernier, trois semaines d'ébullition auront eu raison d'Evo Morales, contraint de convoquer de nouvelles élections. La Paz, Alice Campagnol.
Le rapport de l'Organisation des États américains nous confirme qu'il y a eu fraude de la part du parti du gouvernement dirigé par Evo Morales. De ce fait, le président a fracturé l'ordre constitutionnel et doit démissionner.
Luis Fernando Camacho, le leader de l'opposition de Santa Cruz, parlait à la foule ce matin pour exprimer son désaccord avec l'actuel gouvernement. Selon lui, un nouveau vote n'est pas envisageable. Seule une démission d'Evo Morales calmera les tensions et le dirigeant a appelé à rester vigilant.
Il ne faut pas baisser la garde maintenant. Nos frères de Potosí ont été attaqués. On les a assassinés, comme nos camarades de Potosí et de Santa Cruz. On les a humiliés. Ils doivent s'organiser et former la résistance de notre population.
La nuit dernière, en effet, de violents affrontements entre partisans et opposants d'Evo Morales ont fait un nouveau mort dans les rangs de l'opposition. Une opposition qui paraît être divisée, tandis que Fernando Camacho et beaucoup de citoyens opposés à Evo Morales réclament son départ pur et simple. Carlos Mesa, le principal candidat qui affrontait l'actuel président le 20 octobre dernier, semble vouloir suivre le chemin de nouvelles élections sans candidature d'Evo Morales. Ils sont encore nombreux, les Boliviens dans les rues aujourd'hui, occupant les places et les rues, convaincus de leur victoire prochaine, mais prêts à se battre s'il le faut.
Alice Campagnol, à La Paz, la constitution chilienne devrait offrir sous peu, selon le président Sébastien Piñera, je cite, une meilleure définition des droits de la personne ainsi que de meilleurs mécanismes de participation citoyenne. Modification qui doit faire l'objet d'un débat au Congrès, seule instance compétente pour les valider. Multiplier les scrutins n'éclaircit pas pour autant l'horizon politique. L'Espagne est aujourd'hui appelée aux urnes pour des législatives, les quatrièmes en quatre ans, la sphère politique. Et on ne peut plus fragmenter le chef du gouvernement sortant, Pedro Sanchez, a échoué à former une coalition. Faut-il croire à une sortie de crise ? Bonsoir Isabelle Labéry.
Bonsoir Mathieu.
En direct de Barcelone, Isabelle, quel taux de participation avez-vous en main ?
Alors ce n'est pas une surprise, mais les Espagnols seront moins nombreux à se déplacer aujourd'hui pour voter. Le chiffre officiel de la participation à 14h montre un recul de plus de 3 points par rapport au scrutin du mois d'avril. Il faut dire que la participation alors était particulièrement forte, à plus de 76%. Cette baisse est également notable en Catalogne et au Pays Basque, ce qui veut dire que la pression indépendantiste très forte de ces dernières semaines n'a pas mobilisé.
Isabelle, avez-vous mesuré la lassitude des électeurs ?
Bien sûr, beaucoup d'Espagnols se disent lassés par ces rendez-vous à répétition qui ne débouchent sur rien. Ils sont de plus en plus critiques face à des partis incapables de s'entendre pour sortir de la paralysie. Et j'ai entendu beaucoup d'électeurs dire aujourd'hui qu'ils votaient sans espoir, sans conviction, désabusés aussi par le blocage des discussions sur le processus indépendantiste. C'est le cas d'Elena, professeure de littérature rencontrée dans le très chic quartier de Pedralbes ce matin.
No hay gente dispuesta a hablar en una mesa de negociación y aquellos que
Personne n'est disposé à se mettre autour de la table des négociations. Ceux qui devraient le faire ne sont pas capables, peu habiles. Ils passent leur temps à se jeter des arguments à la figure, sur les positions des uns et des autres. Et finalement, ce sont toujours les mêmes blocs qui ne bougent pas. La seule sortie possible, c'est l'Europe. Le problème est trop enquisté. Seule l'Europe peut nous aider en jouant les médiateurs.
En attendant, la crispation autour de cette question catanale va surtout profiter au parti d'extrême droite, Vox, qui pourrait pourrait quasiment doubler le nombre de ses députés au Parlement.
Merci à vous Isabelle Labéry et Laurent Macchietti en direct de Barcelone. Venons-en à ces milliers de personnes dans les rues de Paris pour une marche contre l'islamophobie aujourd'hui. 13 500 participants selon le cabinet Occurrence auquel Radio France fait appel. Bonsoir Cédric Hemel.
Bonsoir.
Cédric, vous en revenez de cette marche. Quelles paroles avez-vous collectées?
D'abord des paroles écrites dans le cortège. Plusieurs pancartes. Halte à l'islamophobie par exemple pour dénoncer le racisme contre la communauté musulmane et des drapeaux français comme celui tenu par Brahim, 68 ans. C'est un ancien commerçant.
Mon grand-père est français, mon père est français, moi je suis français, mes enfants ils sont français, mes petits-enfants ils sont français monsieur. Six générations.
Une nationalité française qui n'empêche pas les inégalités. 42% des musulmans qui vivent en France disent avoir été victimes de discrimination selon un sondage de l'IFOP, comme le contrôle au faciès que dénonce Roman, 25 ans.
Dans mon quotidien, mon copain est musulman, il a une tête d'étranger, il se fait contrôler tout le temps. Alors que moi, quand je suis avec lui, on se fait jamais contrôler. Moi, je me suis jamais fait contrôler dans la rue et il y a une forme de harcèlement quotidien comme ça. À chaque fois qu'il passe par la gare du Nord, il se fait contrôler, même s'il a son titre de transport.
Une situation qui fait même peur à Yessa, la quarantaine. Elle a deux enfants, une fille de 19 ans qui, dit-elle, a beaucoup eu de mal à trouver une formation sur Parcoursup et un fils de 17 ans. À chaque sortie, elle a peur qu'il se fasse contrôler et que cela tourne mal.
Merci à vous, Cédric Hemel. Bonsoir, Vincent Tibéri. M'entendez-vous, Vincent Tibéri,
oui,
professeur?
Merci. Oui,
merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à Sciences Po Bordeaux. Aidez-nous peut-être à nommer nos confusions islam-immigration ou encore racisme anti-musulman, islamophobie.
Oui, alors c'est assez simple, effectivement. Pendant les années 90, l'immigration et les immigrés, les maghrébins étaient vus, étaient en première ligne. Aujourd'hui, effectivement, on est passé à ce qu'on appelle un cadrage religieux des questions de discrimination. C'est-à-dire que, et en plus, ce cadrage est un mécanisme qui permet quelque part de discriminer sans mauvaise conscience. Quand on discrimine au faciès, on sait qu'on ne le fait pas à juste titre. La République le refuse. Quand on discrimine sur une religion supposée, ben naturellement, c'est un peu plus acceptable parce que cette religion est très souvent vue comme conservatrice, vue comme contre l'égalité homme-femme et voire comme mettant en cause la laïcité en France.
Alors, quels impacts, selon vous, a le débat politique sur le questionnement de chacun quant à ses appartenances ?
Ah, il est essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit là ici, c'est la continuation d'un long travail de politisation autour de l'islam qui a commencé au début des années 2000, qui a continué avec l'affaire du voile, puis de la burqa, le burkini, etc. Et naturellement, la question des attentats. Et il faut bien voir que tout ça permet à un certain nombre d'acteurs de pouvoir clairement, en utilisant des valeurs dites républicaines comme la laïcité ou l'égalité homme-femme, développer un discours qui est clairement un discours de rejet d'une partie de la communauté française. Et c'est bien un des enjeux. C'est-à-dire que l'islam est une religion de France aujourd'hui.
Vincent Tibéri, vous êtes aussi co-auteur du rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Vous faites état notamment dans ce rapport des impacts, pardon encore du terme, mais d'une certaine pédagogie. Elle échoue quelquefois jusqu'à produire, expliquez-nous, un racisme que vous qualifiez de subtil. Qu'est-ce que c'est que le racisme subtil ?
Alors, le racisme subtil, c'est un concept de mon collègue néerlandais Pettigrew, qui montre comment, justement, on passe d'un racisme qui n'est plus un racisme qui s'affirme à un racisme flagrant. C'est-à-dire que, du coup, on utilise des arguments pour cacher son racisme. Et ça va être, par exemple, le cas du voile. C'est-à-dire qu'on part du principe aujourd'hui qu'une femme qui porte un voile est une femme dominée par une religion. Or, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, vu qu'on a de plus en plus, notamment, d'étudiantes voilées. Donc, au lieu de l'attaquer en lui déniant l'idée qu'elle ferait partie de la communauté nationale, on lui renvoie la figure qu'elle fait de la propagande, elle fait du prosélytisme religieux pour une religion qui en plus est conservatrice. Et donc en fait là, le politique a un rôle essentiel. C'est-à-dire qu'on a finalement fini par accepter des débats, une manière de parler de l'islam qui empêche justement de comprendre que l'islam est une religion beaucoup plus complexe et diverse que ce qu'on entend. Voilà.
Bon, ben vous remercie. Nous vous remercions infiniment, Vincent Tibéri, professeur des universités à Sciences Po Bordeaux, pardon, d'avoir accepté notre invitation. C'est un petit cadeau du gouvernement au peuple d'Iran, ce sont les termes d'Hassan Rouhani, le président de la République islamique, a le sens de la litote car il est question d'un gisement de pétrole avec des réserves estimées à 53 milliards de barils, gisement qui s'étend de Bostan à Omidyeh, deux villes de la province du Khouzestan dans le sud-ouest du pays. Il reste à estimer les moyens dont disposent les opérateurs iraniens pour exploiter ces richesses. Écoutez Ferdoun Kavant, universitaire et spécialiste des relations économiques internationales.
Les réserves de pétrole prouvées en Iran s'élèvent déjà à 157 milliards de barils, c'est-à-dire à peu près 9% de réserves mondiales. Ce pays se trouve au quatrième rang dans le monde. La découverte de nouvelles réserves, qui selon Hassan Rouhani s'élèverait à 53 milliards de barils, permettrait à l'Iran de dépasser le Canada et de devenir le troisième pays disposant des réserves prouvées. Mais cela ne change pas les rapports de force sur la scène pétrolière, parce que les tensions qui pèsent sur les relations internationales de l'Iran sont considérables et ces tensions ont réduit les capacités de production de l'Iran. Il y a 40 ans, avant la révolution islamique, l'Iran produisait 6 millions de barils par jour. Il y a 2 ans, avant le retour des sanctions américaines, l'Iran produisait 3,8 millions de barils par jour. Mais à l'heure actuelle, la production iranienne ne dépasse pas 2,1 millions de barils par jour parce que les exportations du pays, comme on le sait après le retour des sanctions américaines, ont considérablement baissé. À l'heure actuelle, les exportations iraniennes s'élèvent seulement à 400 ou 500 000 de barils par jour, ce qui est très peu par rapport aux capacités iraniennes. Donc, les découvertes de nouveaux gisements ne changent absolument rien en ce qui concerne les capacités de production et d'exportation de l'Iran tant que les sanctions américaines sont toujours en vigueur.
Des propos recueillis par Adrien Paluet. Va-t-on vers un apaisement dans la guerre au Yémen après l'amorce de pourparlers avec les Houthis annoncés la semaine dernière par l'Arabie Saoudite? Ce sont aujourd'hui les Émirats Arabes Unis qui reconnaissent un rôle à jouer pour les rebelles chiites dans l'avenir du pays. Riyad et Abu Dhabi sont les deux principaux acteurs de la coalition internationale impliquée depuis mars 2015 dans la guerre au Yémen. Quelques mots de la météo du temps de demain, encore marqué par beaucoup de grisailles matinales sur une grande partie du pays, de forts cumuls de pluie sur l'est de la Corse et l'arrivée d'une nouvelle perturbation océanique en journée. Ce journal a été préparé avec Emmanuel Faucillon.